On n'est pas des Einstein. On n'est pas des Einstein.
Bonjour et bienvenue sur le nouvel épisode, quatrième épisode et premier épisode de 2023 de On n'est pas des Einstein mais tout est relatif, une émission scientifique, podcastique et radioactive présentée donc par Didier Chavaroche.
Bonjour à tous.
Louise Fléchère.
Bonjour.
Et moi-même donc Florent Bourlette. Bonjour à vous tous. En tout cas, j'espère que vous allez passer un bon moment. Nous, on est super contents de vous retrouver pour la première fois cette année et pour des nouveaux épisodes à venir. Plein d'épisodes. En tout cas, 12 au final, hein, puisqu'on en fera un par mois. Si je sais bien compter, ça fait 12. Eh bien, on va commencer par les actualités du spatial, vous l'aurez compris, cette saison 1, et en particulier, là déjà, début 2023, on parle essentiellement de l'espace, c'est le thème de notre première saison, et j'ai vu une news assez surprenante, parce qu'on pourrait envoyer une fusée sur Mars en seulement 45 jours. Vous savez comment ? Est-ce que vous savez comment ?
Je sais pas, je pense une orbite un peu spéciale, non ?
Eh bien non, en fait, on en voit grâce à un laser. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années, l'agence spatiale américaine, la NASA, a lancé un challenge, en fait, à des scientifiques, en disant, on a besoin de lancer une charge utile, donc une charge utile, c'est ce que l'on emmène lors d'un voyage spatial, de une tonne, et il faut qu'on puisse l'envoyer en 45 jours. Et là, il y a des scientifiques qui se sont posés là-dessus et auraient réussi à créer quelque chose qui permettrait d'envoyer du moins une petite fusée, en tout cas, une charge avec une charge utile d'une tonne sur Mars en 45 jours grâce à une propulsion laser. Donc en fait, ils vont condenser un laser sur une sorte de réflecteur géant et qui va chauffer un plasma d'hydrogène à plus de 40 000 degrés et ensuite propulser cette charge utile, cette fusée au final, avec le laser formé par cette condensation de plasma. Donc c'est énormissime parce qu'on pourrait envoyer une fusée en un mois et demi. Donc voilà, ça c'est pour la première grosse news de ce début janvier 2023. Si c'est possible, ce serait énorme. À voir, à suivre, on vous en dira plus d'ici quelques temps. Deuxième actu, alors ça aussi, important, début février, 1er février, ayez les yeux vers le ciel, si possible avec des jumelles, parce que vous pourrez observer une comète qui va passer à côté de la Terre, donc de son petit nom, C2022E3. Elle a été appelée comme ça parce qu'ils l'ont observée le troisième mois de 2022, donc mars 2022, ils ont observé son arrivée. Ça fait 50 000 ans qu'elle n'est pas passée à côté de la Terre, donc ce serait vraiment sympa de pouvoir lui faire un petit coucou, si vous voulez. Donc ce sera le 1er février, elle sera visible à l'œil nu, mais c'est mieux d'avoir des jumelles. Donc si vous voulez l'observer, c'est donc rendez-vous le 1er février à partir de 1h30 du matin, entre la constellation d'Hercule, le Bouvier, et la couronne boréale, en plein nord-est. Voilà, donc les yeux vers le nord-est, au niveau de la constellation d'Hercule. Alors attention, elle sera assez basse au niveau de l'horizon, donc il vaut mieux prendre un petit peu de hauteur si vous voulez l'observer plus clairement. Évidemment, si vous habitez dans le fond d'une vallée, c'est un peu plus compliqué. Dernière chose, dernière grosse news dans le monde du spatial qui a fait parler de lui, notamment sur les réseaux sociaux. Il paraît que, après sa chute dans un trou de verre, un engin spatial pourrait renvoyer un message. C'est ce que des scientifiques ont pu calculer et proposer sur le papier. Apparemment, ça marcherait. On pourrait renvoyer un message dans un trou de verre. À savoir que le trou de verre est une sorte de cousin du trou noir et ce serait un passage entre deux points de l'espace-temps dans l'univers, une sorte de petit raccourci en deux.
C'est un raccourci qui permettrait de relier en fait deux points de l'espace distants de plusieurs années-lumière. On relie ces deux points de l'espace à travers un trou de verre, et c'est différent d'un trou noir parce que le trou noir, lui, en fait, a champ gravitationnel tellement énorme qu'il absorbe tout et rien ne ressort. Mais le trou de ver, lui, c'est juste un passage, en fait. Il n'y a pas cet effet gravitationnel du trou noir qui, en fait, absorbe tout et ne permet pas d'étude de l'intérieur d'un trou noir.
C'est ça. Un trou noir supposé, si on n'est pas capable d'aller au-dessus de la vitesse de la lumière, on ne peut pas ressortir d'un trou noir.
Voilà, c'est ça.
Par contre, un trou de ver peut emmener à un autre endroit de l'espace-temps.
C'est le même principe que à la télévision, il y avait l'émission en fait qui s'appelait Stargate.
Oui, c'est ça.
Avec les portes des étoiles.
Ouais, donc, c'est ça, c'est le même principe. Ouais.
C'est exactement le même principe, quoi. Donc, ouais. C'est d'ailleurs ce qui relie deux portes dans la série, ils ont appelé ça le trou de ver. En fait.
Ouais, c'est ça. Ouais,
Et c'est parce que ça reprend ce principe, en fait, de trou de ver dans l'espace.
Oui, et puis même un peu dans Rick and Morty, si vous connaissez le dessin animé, avec le Rick, donc un scientifique complètement fou qui est capable de fabriquer des trous de ver où il le souhaite et qui passe d'univers parallèles à d'autres, de lieux dans l'espace-temps, etc. Donc c'est vraiment à regarder. Si vous n'avez pas vu Rick and Morty, c'est assez rigolo. Voilà. Donc ouais, d'après certains calculs, on pourrait renvoyer des messages dans l'autre sens, dans un trou de ver. Ça avait fait un peu parler sur les réseaux sociaux. Et dernière chose aussi, on a entendu parler d'une deuxième lune. Une deuxième lune. On aurait une deuxième lune. Et alors, il faut savoir que c'est pas totalement faux. Donc, on a vu ces articles-là, c'est passé même dans les réseaux sociaux. En fait, il s'agit d'une lune, entre guillemets, temporaire. C'est-à-dire, c'est un astéroïde qui nous rend visite, qui fait quelques tours de la Terre, qui est en orbite et qui va repartir. Et ça arrive souvent, c'est déjà arrivé de maintes et maintes fois dans l'histoire de la Terre, mais ce que l'on appelle vraiment la Lune, c'est notre satellite naturel. Donc, en fait, c'est également un satellite naturel, cet astéroïde, ouais. Mais il est temporaire, alors que notre Lune, elle est là pendant un certain temps, et surtout, elle est beaucoup plus grande qu'un simple astéroïde. On peut pas forcément dire que deuxième Lune.
Il vient squatter, en fait, dans notre...
Il vient squatter dans notre orbite, et ensuite, il va repartir.
D'accord.
Il n'y a pas si longtemps que ça, fin 2022, nous avons eu la chance, même la fierté, on va dire, de voir des nouveaux astronautes français qui ont été sélectionnés parmi tous les astronautes européens. Et Louise, alors justement, toi tu es notre experte espace de la team, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment devient-on un astronaute ?
Absolument. Donc, il faut bien préciser que c'est une sélection qui n'a pas lieu très souvent. Donc là, on est en 2023. La dernière sélection qui avait eu lieu, c'était en 2009. Il a donc fallu attendre beaucoup de temps pour les gens qui avaient soumis leur candidature en 2009 avant d'avoir une autre chance. Et ils étaient nombreux, les candidats, pour cette sélection donc de l'année en fait 2022, qui ont été annoncée en 2022. Il y avait près de 20 000 candidats qui ont soumis donc un dossier pour pouvoir devenir astronaute pour l'Agence spatiale européenne. Et comment ça se passe ? Eh bien, en fait, pour devenir astronaute, il n'y a pas de voie royale. C'est-à-dire qu'il n'existe pas une université spéciale où on irait après des études scientifiques ou autres. En réalité, les critères de sélection pour pouvoir déposer un dossier, c'était il fallait être européen. Il fallait avoir fait des études dans la science, donc la science au sens large, ça peut être de la géologie, de la physique, de la mathématiques, même des docteurs. Et puis il fallait passer un tout petit examen médical préalable qui est celui que tout pilote d'avion du dimanche peut passer. Donc voilà, très 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 faible critère de sélection pour déposer un dossier, mais grosse sélection ensuite avant d'obtenir cette nouvelle classe d'astronautes, donc ils sont très peu. Il y avait plusieurs étapes. La première étape, c'était une sélection donc sur le dossier. De ces 20 000 candidats, seuls 1 500 ont été sélectionnés pour aller en Allemagne et passer le prochain test qui était un test psychotechnique, donc de visualisation dans l'espace, des tests de mémoire, ce genre d'épreuve. Après cette épreuve-là, il y avait des tests de tests en groupe. Donc sur les 1 500, encore 1 500 à peu près ont été sélectionnés pour aller passer des tests en groupe et des tests de psychologie. Les tests d'après, c'était des tests médicaux. Et Enfin, avant de pouvoir devenir astronaute, il y avait des interviews avec toutes les grands de l'Agence spatiale européenne jusqu'au directeur général. Et voilà, aujourd'hui donc on a 5 astronautes de carrière, 11 astronautes de réserve et un para-astronaute. Et dans ces nouveaux astronautes, nous avons la Française Sophie Adjano, qui est astronaute de carrière.
Cocorico.
Voilà. Cocorico, exactement.
Alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'on peut postuler même après 50 ans? Est-ce qu'on peut passer les épreuves de sélection après 50 ans?
Alors,
c'est faisable.
C'est pas faisable, malheureusement. Non. Après 50 ans, c'est un peu la limite haute. Il y a des astronautes qui sont sélectionnés bien dans leur quarantaine, mais comme il y a des conditions physiques un peu difficiles à remplir, et bien passé un certain âge, je crois qu'ils ne se donnent même plus la peine de passer les premières sélections.
Moi j'ai une autre question, c'est est-ce que ces astronautes en fait vont voler avec la fusée Artemis des Américains qui va sur la Lune?
Oui, c'est une bonne question. Donc Artemis, c'est tout un programme pour ramener l'homme et cette fois les femmes aussi sur la Lune. Il se trouve que c'est un programme qui se fait en plusieurs parties. Et une des parties, c'est d'installer une station spatiale internationale autour de la Lune. Et on sait déjà qu'il y aura des Européens qui pourront aller voler jusqu'à cette station internationale lunaire. Mais pour ce qui est des Européens qui mettraient le pied sur la Lune, encore rien de confirmé. On sait tout à fait, par contre, que derrière, en politique, il y a beaucoup qui est en jeu et que on croise les doigts pour que l'Agence spatiale européenne arrive à convaincre la NASA de nous laisser un Européen mettre le pied sur la Lune ou une Européenne.
Donc, à voir à venir, ce sera la surprise, hein, je pense.
Oh, j'espère quand même.
En tout cas, ouais, on espère voir des Français sur la Lune. Ce serait énormissime.
Bah on participe au programme, donc ça serait normal qu'on ait quelques sièges quand même.
Ouais, ouais, ce serait bien quand même. Qu'on nous le donne gracieusement.
Peut-être
qu'il y a un petit bifton sous la table, ça peut.
Mais non, mais la moitié du vaisseau qui part, c'est européen, quoi.
Oui, au final, ouais. Oui.
Et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'arguments en faveur d'un astronaute français. Le nom de Thomas Pesquet est évidemment mis en avant souvent parce qu'il était. Très bon dans son rôle d'astronaute. L'Italie aussi a beaucoup investi pour ce programme de station spatiale autour de la Lune, donc il y a aussi des questions de ce côté-là.
Oui. Et j'ai vu d'ailleurs Thomas Pesquet qui est passé officier de la Légion d'honneur, donc il était déjà chevalier de la Légion d'honneur. Il est passé officier alors qu'il y a un délai d'attente. Un certain délai, ils lui ont donné quand même au vu des missions qu'il a effectuées de ce qu'il a fait. Il est officier maintenant de la Légion d'honneur. Voilà pour la petite histoire.
D'accord.
Eh bien, Didier, tu m'as parlé d'un métier l'autre jour, un métier qui est le métier de technologue. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus? Parce que ça m'intrigue, vraiment. Ça m'intrigue.
Eh bien, c'est un spécialiste de la technologie. Il est savant, en fait, d'une certaine technique. Et c'est une personne qui a une formation scientifique et technique et qui est qualifiée pour concevoir et animer des projets, en fait. Il est capable de comprendre une technique de manière assez pointue. Il est capable aussi de la mettre en œuvre. il est capable de faire des choix techniques en fonction des projets. Donc c'est un métier qui se rapproche en fait du métier d'ingénieur, mais là où un ingénieur aura en fait une discipline, le technologue lui aura une technologie en fait.
D'accord. Donc il doit être quand même assez polyvalent du coup sur une technologie.
Mais il est spécialisé. Par exemple, si on prend l'ingénieur système. Donc l'ingénieur système en fait c'est un ingénieur qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il fait du génie mécanique. Il fait du génie civil, il fait du génie électronique, mécanique, etc. Après, vous avez les ingénieurs qui sont spécialisés dans le génie civil, les ingénieurs du génie mécanique, du génie électronique, et etc. Et le technologue, lui, il va être spécialisé dans une technologie. Par exemple, la conception de sites web ou la programmation informatique ou l'électronique ou... C'est ce qui, en fait, c'est ça la différence entre tous ces métiers qui ont plus ou moins la même formation à la base.
C'est-à-dire qu'on peut faire technologue avec une école d'ingénieur, par exemple.
Oui, c'est ça.
D'accord, ouais.
Mais après, on choisit de se spécialiser dans une technologie.
Dans une technologie en particulier. D'accord. Et oui, ça m'intriguait parce que tu m'en avais parlé l'autre jour.
Oui.
À propos d'un film ou d'une série.
C'était une série, ouais. J'avais trouvé ça. Il faisait appel à des technologues, en fait, pour résoudre des problèmes. Bon, c'était de la science-fiction, et je me suis dit, tiens, c'est intriguant. Est-ce que ça existe en vrai, le métier de technologue? Bien oui.
Vous le savez,
j'ai découvert ça.
Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas sur la page Facebook à nous en faire part dans les commentaires. Et également sur la page du podcast, aussi, on n'est pas des Einstein. Ou sur la page RBA FM. Alors, moi, de mon côté, je voulais absolument vous parler d'un super film que j'ai vu il n'y a pas longtemps et dont tout le monde a entendu parler. Je pense que la plupart d'entre vous, chers auditeurs, vous êtes allés voir ce film-là, j'en suis sûr.
On ne peut vous laisser apporter votre guerre ici.
Des parias, c'est tout ce qu'ils voient.
Ça faisait 13 ans qu'on l'attendait, Avatar 2, la suite, la voix de l'eau, est époustouflant de par ses effets spéciaux.
Personnellement, moi je me suis endormi.
Tu t'es endormi, bon bah, voilà, chacun, il y en a qui aiment, d'autres qui aiment pas, bon voilà. Moi j'avais les yeux grands ouverts, j'étais époustouflé tout du long.
C'est vrai que c'est époustouflant.
Ouais, voilà. Peut-être c'est le scénar qui t'a peut-être pas plu. Hein.
Mais c'est peut-être 3h10 aussi, c'est long quoi. Donc
c'est vrai que 3h au bout d'un moment. Alors bon, Cameron, c'est Cameron. Après les films longs, on commence à avoir l'habitude avec déjà 4h de Titanic. Mmh. Bon, voilà. Donc Avatar 2 qui maintenant a dépassé les 10 millions d'entrées en France et qui donc rejoint un des records également de nombre d'entrées pour un film qui est
de Titanic, ouais.
Voilà, Titanic, donc le même réalisateur. Donc chapeau à Monsieur Cameron, magnifique, franchement record. Avatar 2, donc vraiment très très bon film. Sans faire de spoil, juste très rapidement. Alors on revient sur l'histoire de Jack Sully qui était déjà dans le premier et de Neytiri, donc sa femme qui se retrouve avec leurs enfants et ils craignent d'être poursuivi par un grand méchant. Je n'en dis pas plus parce que là je risque de spoiler, mais ils ont un grand méchant, ils sont poursuivis et ils vont fuir donc leur habitation et leur peuple Navi pour aller voir un autre peuple Navi également qui s'appelle les Metkania. Metkania, je ne sais plus comment ça se prononce, mais ce sont des Navi qui vivent au niveau d'un récif corallien qui rappelle étrangement donc les récifs coralliens que l'on retrouve dans le Pacifique. Donc en fait, les réalisateurs et en particulier ceux qui ont fait les effets spéciaux, donc la boîte de prod d'effets spéciaux qui s'appelle Weta FX, donc a réalisé tous les effets spéciaux. Et ma première question, c'est, à ton avis, Didier, est-ce qu'ils ont filmé en partie sous l'eau et ensuite ils ont fait des effets spéciaux après, en post-prod, ou est-ce que c'est entièrement des effets spéciaux faits par ordinateur ?
Moi, je pense que c'est comme le premier. Ouais. C'est que des effets spéciaux.
Exactement, c'est ça. C'est entièrement des effets spéciaux. L'eau a été complètement faite par ordinateur. Donc c'est la boîte qui fait ces effets visuels. Hein. Elles ont une équipe qui est experte en hydrodynamique, c'est-à-dire qu'ils vont étudier le dynamisme de l'eau. Et ils se sont basés donc sur des faits réels, hein, une dynamique réelle et mathématique, pour générer en fait une fausse eau complètement faite par ordinateur. Donc c'est assez impressionnant parce qu'il y a des scènes du film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, c'est époustouflant. On voit des reflets, on voit des choses à travers l'eau qui se passent, des vagues, etc.
Moi, j'avais eu l'impression de regarder un documentaire, en fait.
C'est comme si on était dans quelque chose de réel, complètement. On a des effets visuels qui sont époustouflants. Il faut savoir que Pandora, donc, c'est une planète qui est satellite, donc c'est une lune d'une autre planète qui s'appelle Polyphème. Et il y aurait, en réalité, sur Pandora, 75% de la gravité qu'il y a sur Terre. Donc ça, ils ont dû le prendre en compte. Par contre, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est le fait que autour de Polyphème, il y a au total 14 lunes autour de Polyphème, dont fait partie Pandora. Donc, logiquement, devrait y avoir des effets de marée engendrés par toutes ces lunes. D'accord, à l'approche de Pandora, ouais, il y aurait des effets de marée par rapport à d'autres lunes et par rapport à Polyphème, ouais, etc. Chose qu'ils n'ont pas pris en compte parce que c'était beaucoup trop compliqué. Et pour une question aussi d'immersion, ils n'ont pas voulu rentrer dans ce...
Oui, il y en a déjà assez comme ça, j'ai envie de vous dire.
Bah, d'après, en fait, Eric Sindon, qui est superviseur des effets chez Weta, il a déclaré au New York Times qu'il y avait quelque chose comme 1600 simulations d'effets majeurs différents. Et que le bon écoulement des vagues sur l'océan, les vagues interagissant avec les personnages, les vagues interagissant avec l'environnement, la fine pellicule d'eau qui coule sur la peau, la façon dont les cheveux se comportent lorsqu'ils sont mouillés aussi, hein, dans l'eau. Faut penser que dans l'eau, c'est
oui, flotte, oui,
il flotte. Ouais, hein. Faut penser aussi à l'indice de réfraction de la lumière sous l'eau aussi. Ils ont pensé à ça. En fait, ils ont vraiment essayé de reproduire la physique de l'eau, la physique qui se passe sous l'eau. Autre chose, au niveau des écosystèmes qui sont époustouflants de couleurs, d'espèces différentes. Moi, mon regard de prof de SVT, là, il était pétillant. Là. J'avais les yeux qui brillaient dans tous les sens. Il y avait des espèces qui se sont vraiment inspirées sur, par exemple, des récifs coralliens, du Pacifique notamment. On peut retrouver l'exemple de la bioluminescence. Par exemple, il y a des algues bioluminescentes. Oui. On peut voir dans Avatar, par exemple, ils vont donner de la lumière sous l'eau, etc. Là, en fait, ils se sont inspirés d'une espèce qui existe vraiment, hein, les dinoflagellés, qui existe à Bora Bora. D'accord. Et en fait, ils sont inspirés de cette bioluminescence. Donc, les dinoflagellés, c'est des phytoplanctons, c'est des petites algues quasi microscopiques qui vont, lorsque une molécule qui s'appelle la luciférine va être oxydée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il va y avoir une réaction chimique qui va faire que cette molécule va être excitée, en gros, et lorsqu'elle revient à son état stable, elle va lâcher un photon. D'accord. Donc c'est une réaction qui est bioluminescente.
C'est des lucioles de mer.
En gros, c'est comme c'est quasiment la même molécule, hein, il me semble d'ailleurs.
Ah d'accord. Lucioles,
c'est la luciférine, ah ouais, aussi. Qui vont émettre une lumière qui est dans la longueur d'onde du bleu vert.
Ah ouais.
Et on le voit, hein, ça, vous pouvez regarder, hein, vous cherchez sur Internet, Bora Bora, bioluminescence, il y a des photos magnifiques, on se croirait vraiment dans Avatar, pour de vrai.
Ah ouais, alors, ah ouais, ouais. Est-ce non, que c'est pas Avatar fou qui se croit à Bora Bora plutôt?
Bah oui, c'est ça en fait. C'est presque ça, Avatar qui se croit à Bora Bora. Avatar aussi, autre chose, c'est que les espèces qu'il y a dedans et même les Na'vi, on peut faire de la biologie de l'évolution rien qu'en regardant dans Avatar. C'est-à-dire que on regarde les Na'vi, ils ont des palmes quasiment. Hein, on regarde leurs mains, leurs pieds, etc. sont adaptés à la nage. Hein? Donc, on peut imaginer qu'on peut faire la biologie de l'évolution. C'est-à-dire que ces populations ont les individus les plus adaptés à cet environnement ont mieux survécu que les autres.
Ah d'accord.
Du coup, ils ont ce genre de caractère exactement. Et d'ailleurs aussi, dernière chose, c'est que les connexions qu'il y a entre les plantes dans le premier Avatar, on peut retrouver des choses un peu similaires aussi nous dans la réalité.
Ah, la solidarité, avec le grand esprit.
Au niveau des racines, quand les plantes, toutes les plantes et tout sont connectées ensemble, et ben dans la réalité, en fait, il peut y avoir des plantes qui vont échanger de la matière avec, par exemple, un champignon, et ce champignon va à nouveau ensuite échanger sa matière. Donc, ça peut être de la matière comme des sucres. Au niveau des racines, entre un champignon et une autre plante ensuite.
D'accord.
Et parfois, communiquer, les plantes, elles communiquent aussi grâce à des molécules pour. Dire aux autres plantes attention, là je suis en train de me faire couper, par exemple typiquement un arbre qui va se faire scier va émettre des molécules pour indiquer aux autres attention, je suis en danger, et voilà. D'accord. Donc c'est un signal de détresse fait par les plantes, donc les plantes communiquent.
Ils peuvent pas fuir les arbres.
Malheureusement non, nous ne sommes pas dans Le Seigneur des Anneaux. Les Ents. Voilà, bon, en tout cas c'est fini pour moi. J'espère que ce dossier vous a plu. Eh bien, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez vraiment apprécié notre compagnie. En tout cas, nous, on a vraiment apprécié la vôtre. Hein. On ne vous connaît pas, mais en tout cas, on a apprécié votre compagnie.
On aime beaucoup ce que vous faites.
On aime beaucoup ce que vous faites, exactement. Eh bien, merci à vous. On vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, bon appétit, bonsoir, tout ce que vous voulez. Une très bonne année, puisque c'est la première émission.
Et oui, meilleurs vœux.
Et meilleurs vœux. Et
santé.
Au mois prochain.
Et bien, passez une bonne journée et on se retrouve à bientôt. Bonne
Allez,
journée.
Ciao, bisous.
Bisous, bisous.
Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Oui, tout est relatif.